Nous nous inscrivons dans une optique pluridisciplinaire. Néanmoins, ce matin, cet après-midi, vous allez écouter quatre historiens.
C'est pas un défaut non plus.
Ce qui n'est pas un défaut, mais qui abordent différents thèmes. Tous abordent le vin, mais de différentes manières. Tout d'abord, Thibaut, que vous connaissez, qui va vous présenter un travail qu'il a préparé avec Emmanuel Vaudour d'AgroParisTech, qui ne pourra pas être là aujourd'hui. Un travail sur les terroirs viticole antique, qui associe finalement histoire et agronomie. À ma droite, Benoît Musset, qui nous fait le plaisir de venir du Mans, pour nous présenter un travail sur la salubrité, conservation et goût du vin, puisque ce souci de qualité du vin ne date pas d'hier. Déjà, à l'époque moderne, au début de l'époque contemporaine, les gens voulaient boire du bon vin, éviter par exemple qu'il soit coupé de... Vous en direz davantage, mais coupé de plâtre, coupé d'autres choses, censé peut-être provoquer des maladies de manière trop fréquente. Puis, après le repas, si jamais, malheureusement pour vous, le vin vous monte à la tête, je vous donnerai des remèdes du XVIIe siècle, alors je ne sais pas s'ils sont très efficaces, des remèdes de Jean Mouzin, médecin du duc de Lorraine au début du XVIIe siècle, qui est le premier médecin à s'intéresser réellement à ce problème de l'ivresse et à considérer l'ivresse comme une maladie. Et puis nous finirons l'après-midi avec Claude Muller, qui nous fait le plaisir de venir de Strasbourg, pour nous présenter finalement une sorte de synthèse d'un ouvrage que vous avez publié récemment, il y a quelques années, sur l'Alsace, une civilisation de la vigne, en s'intéressant au XVIIIe siècle. Finalement, aujourd'hui, nous allons nous promener du terroir à la médecine, à la société, jusqu'à l'économie, jusqu'à la civilisation du vin. Et je laisse la parole à Thibaut Boulet.
Merci Mathieu. Alors je note que les bons vins ne doivent pas être coupés de plâtre, et, ni même coupés tout court. Alors je ne sais pas si on peut ranger les vins de l'Antiquité parmi les bons vins, puisque le plâtrage était très, très fréquemment employé hein, pour augmenter un petit peu l'acidité réelle dans le mou, hein, abaisser le pH pour éviter le développement des micro-organismes. Et par ailleurs, vous savez que les Grecs buvaient le vin coupé d'eau, au moins à moitié, donc... Ceci dit, je crois que les vins de l'Antiquité étaient sans doute très très intéressants. Alors, j'aurais pu aujourd'hui vous parler d'Homère, de l'Odyssée. On y trouve tout et finalement, pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour avoir une idée assez précise de ce qu'est un terroir chez les anciens, chez les Grecs notamment. Si vous voulez reprendre les pages de l'Odyssée, regardez ce qu'Homère dit des vignes d'Ismaros. Plus connue dans l'Antiquité sous le nom de vigne de Maronée, du prêtre Maron. Vous aurez une idée assez précise de ce que les Grecs considéraient être un bon vin et un bon vin de terroir. Et à l'opposé, le mauvais vin, il est aussi dans Homère, c'est le vin des Cyclopes, le vin de la terre de Cyclopie, où on a des grappes remplies de l'eau que verse Zeus sur les vignes qui ne sont même pas cultivées. Mais, comme l'a dit Mathieu, aujourd'hui, nous sommes quatre historiens à parler et il faut pourtant laisser un peu de place à la pluridisciplinarité qui est l'une des spécificités de Léa, hein, de notre équipe. Alors, j'espère décoiffer un peu quelques historiens avec de la géologie, de l'agronomie, les sciences du sol, la télédétection. Et ça n'aurait pas été possible sans l'aide d'Emmanuel Vaudour de l'AgroParisTech, spécialiste qui est géographe quelque part, hein, qui est spécialiste des sciences du sol, de télédétection, qui travaille à l'AgroParisTech, qui est dans une équipe de recherche INRA. Et malheureusement, elle ne peut être présente aujourd'hui, mais tout ce que je vous présenterai ce matin est issu de nos travaux en commun. Nous avons eu l'occasion de monter des appels à projets ensemble. On va continuer parce qu'on n'a pas encore décroché le gros lot, mais on espère bien y arriver un jour. En tout cas, voilà. Donc, n'oubliez surtout pas que Emmanuel Vaudour contribue de manière très importante à ce projet et à ce dossier. Alors, la question que je voudrais poser aujourd'hui, ce matin, alors nous n'avons pas de président de séance. C'est-à-dire qu'en théorie, je peux parler 2h30 et manger tout le temps de. Mais bon, donc collectivement, nous nous contrôlons. Si jamais je dépasse l'heure qui m'est impartie, vous m'arrêtez tout de suite. Donc la question que je voulais poser ce matin, c'est celle des terroirs viticoles antiques. En effet, les grands crus de l'Antiquité sont relativement bien connus. Dans le monde grec, le Thasos, le Chios, le Maronné, pour ne prendre que les trois plus célèbres, qui étaient aussi appréciés par les Romains, c'est-à-dire qu'on a là des terroirs réputés et sur la longue durée. Donc si les crus renommés sont bien connus, les terroirs viticoles antiques, eux, restent très méconnus. On n'a pas identifié aujourd'hui, malgré la découverte de traces de plantations dans des plaines qui ne peuvent pas être mises en relation avec des vignobles antiques, on n'a pas exactement déterminé l'emplacement de vignobles antiques, ce qui pose beaucoup de problèmes pour l'interprétation des textes, l'interprétation des baux notamment. Et pourtant, à la fois les dossiers documentaires dont dispose l'historien d'Antiquité et les progrès récents de la recherche, les progrès récents dans la connaissance des terroirs, autorisent finalement une approche nouvelle qui permet d'identifier des terroirs. Alors, je ne vous présenterai pas beaucoup de cas ce matin, j'en développerai un pour vous montrer une méthodologie. Mais c'est un travail qui commence et qui devrait, je l'espère, apporter de nouveaux résultats dans les années qui viennent. Donc je développerai une étude de cas et nous verrons comment cette étude peut être appliquée à d'autres exemples. Alors cette étude, elle s'appuie sur des travaux donc récents, j'en cite quelques-uns, des travaux concernant l'écophysiologie de la vigne. Je pense notamment au livre coordonné par Alain Carbonneau, La vigne, physiologie, terroir, culture, un livre très très important pour la conduite de la vigne et la vigne dans son environnement, interaction sol et climat. Et des travaux récents également sur la caractérisation des terroirs antiques. Et l'ouvrage le plus important et le plus novateur en la matière, c'est l'ouvrage d'Emmanuel Vaudour, publié en 2003, hein, c'est sa thèse, « Les terroirs viticoles, définition, caractérisation et protection », avec des coquilles, vous les corrigerez. C'est un travail très intéressant et éminemment pluridisciplinaire, puisqu'elle part finalement du travail des historiens pour montrer comment on peut préciser cette notion qui est employée un peu à tort et à travers et comment on peut l'utiliser efficacement dans les travaux des uns et des autres. Enfin, ce travail, et en particulier l'exemple que je développerai ce matin, s'appuie sur des travaux des topographes, des géologues. Quand ces travaux sont disponibles, hein, notre pays qui vante tant ses terroirs n'est pas d'ailleurs en pointe en la matière. Hein. Si vous regardez les cartes les cartes physiques, les cartes géologiques disponibles pour la France, vous verrez qu'il manque beaucoup de choses. Et en la matière, il faut saluer le travail des géologues turcs. C'est aussi pour des raisons politiques, hein, puisqu'on a à la tête de la Turquie des dynasties de présidents, ingénieurs, constructeurs de barrages. Donc la géologie a toute sa place dans l'exercice du gouvernement en Turquie. En tout cas, le service turc de géologie est très efficace, met en ligne un certain nombre de documents, de cartes géologiques récentes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la France. Et donc, on peut travailler assez précisément grâce à ces matériaux qui sont mis en ligne. Alors, vous allez une très belle carte hein, proposée par le service de minéralogie et de géologie turque. Et vous verrez que nous allons nous intéresser, nous, à un tout petit coin de Turquie. Hein, c'est un pays immense, vous le savez, dans le sud-ouest de l'Asie mineure occidentale, ce que l'on appelle la péninsule de Bosporus. Alors, quand on parle de terroir viticole antique, il faut un petit peu préciser ce que l'on entend par là. Donc, on va essayer de préciser et d'identifier des terroirs viticoles antiques grâce à l'analyse spatiale. déterminer les lieux, l'extension du vignoble antique d'Amos, puisque c'est celui qui nous intéressera en particulier. Définissons les unités de terroir à la fois d'après les facteurs du milieu physique, les modalités de culture, le type de production, tout cela afin d'élaborer des vins de qualité. Enfin, quelques verrous méthodologiques qu'on essaiera de lever au fur et à mesure. Hein. La question de la variation des facteurs du milieu physique, les sols changent, pas l'école, les sols. Quand on fait un PowerPoint dans le train, voilà ce qui arrive. La question aussi de la représentativité des vignobles actuels, et on verra que pour le cas de la Turquie, finalement, la question se pose peu, et la question des cultures associées qui est très très importante. Donc le terroir que je vous propose d'étudier en particulier, c'est le terroir d'Amos. Vous avez là une localisation. Amos, c'est une petite, aujourd'hui, une toute petite localité au sud de la Turquie, en face de l'île de Rhodes. Presque en face de l'île de Rhodes, hein, on est dans la baie de Marmaris. Vous verrez quelques photos, c'est un magnifique lieu pour passer ses vacances et pour faire des missions. Accessoirement, il n'y a pas de raison de travailler dans des coins pas agréables. Hein. Donc vous voyez là la carte de la région dans l'Antiquité. Je ne vais pas entrer dans les détails d'histoire politique, mais vous avez là au sud de la carte l'île de Rhodes, avec la ville de Rhodes fondée à la suite du synecisme de trois localités à la fin du 5e siècle. Cette île est très puissante à l'époque classique, encore à l'époque hellénistique et à l'époque romaine. C'est l'une des rares cités à conserver son indépendance, et cette cité... peu à peu, à la fin de l'époque classique et à l'époque hellénistique et jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, se taille un territoire continental. On distingue deux territoires, la Pérée intégrée. La Pérée, c'est le territoire continental du Nil. La Pérée intégrée, alors je ne sais pas pourquoi la carte disparaît. L'écran, vous l'avez là ?
Oui, bon. Oui. Pourquoi il s'est mis en veille?
Oui. Ça m'a déstabilisé.
Pas normal.
Pourtant, on a une belle salle. Donc, je continue. Donc, on distingue deux territoires. La Pérée intégrée, qui reste dans l'orbite de Rhodes pendant toute l'époque hellénistique et ensuite à l'époque romaine, c'est le territoire civique. Et l'autre partie du territoire rhodien, c'est la Pérée sujette, qui n'est en réalité soumise à Rhodes que pendant une courte période au IIe siècle. Ah, vous allez peiner si vous n'avez pas d'écran. Alors, est-ce que c'est...
Alors, c'est les limites de l'interdisciplinarité de l'équipe, c'est-à-dire que sur la technologie informatique,
c'est revenu.
Ah, mais ici.
On est d'accord. Encore un tout petit peu juste, sauf Marc qui
c'est un changement
des choses comme ça.
Je vais mettre là en fait.
Bon, non, excusez ce problème technique. Donc, l'appairé intégré et l'appairé sujette, beaucoup plus vaste, hein, et en particulier toute la Carie qui est sous domination rhodienne au cours du IIe siècle, mais finalement cela ne nous importe peu. Donc, à Amos, la localité que vous avez identifiée sur la carte, les épigraphistes ont retrouvé un certain nombre de documents sur le site même antique, des inscriptions gravées sur des stèles de marbre. Ce sont des inscriptions au pistographe, hein, qui sont gravées comme les manuscrits au pistographe de chaque côté. Elles sont couvertes d'écritures, et ces stèles... les stèles retrouvées à Amos portent en particulier des baux de location de vignes qui sont très précieux pour l'étude de la viticulture antique. Ces baux ont été publiés par Peter Fraser et George Bean au début des années 50, en 1954, dans un volume classique, La Péréraudienne et les îles. Ces inscriptions ont été à nouveau republiées par Alain Bresson en 1991. Et le texte que l'on va particulièrement étudier a été corrigé par François Salvia en 1993. Il a corrigé en particulier deux restitutions d'une inscription très précieuse pour nous. Vous avez là sous les yeux un passage d'une inscription qui nous intéresse tout particulièrement. Je n'ai pas besoin de traduire, évidemment. Notez que les restitutions en question prennent place aux lignes 5 à 8, alors 5 à 7, pardon. Jean-Pierre avait évidemment remarqué. Alors, cet exercice de restitution a été confirmé très heureusement au début des années 2000 par la découverte d'un nouveau fragment de bail. Et de manière très, très surprenante, le morceau qui reprend en partie cette clause confirme les restitutions de François Salvia, hein, restitutions qui ont plus de 20 ans, et c'est rare finalement que les épigraphistes soient confirmés dans leurs intuitions de la sorte. On peut saluer là le talent de François Salvia, qui avait su interpréter correctement ce texte là où Peter Fraser et Alain Bresson s'étaient fourvoyés. Je vous propose quand même une traduction de ce passage que l'on va étudier en particulier. Et passage qui va nous permettre, qui va nous donner la clé de l'identification du terroir viticole d'Amos. Que le locataire plante pour chaque mine de loyer, donc une somme précise d'argent, au moins 1000 pieds de vigne dans la plaine avec un espacement de 4 pieds et demi au moins, laissant une bande cultivée intermédiaire, en grec une spora, de 6 pieds de large au moins, en terrain rocheux, avec un espacement de 4 pieds au moins et une bande cultivée de 4 pieds. Qu'il creuse la tranchée, en plaine et en terrain rocheux, à une profondeur de 5 pieds, de 5 demi-pieds au moins. Qu'il plante aussi des figuiers, au moins 40 pour chaque mine de loyer, avec un espacement de 40 pieds, en creusant au moins à une profondeur de 3 pieds. Il est question de deux choses, comme l'a montré François Salvia, donc de tranchées qui permettent de planter les vignes dans les meilleures conditions possibles. Vous savez qu'on peut planter une vigne de trois façons différentes, ou bien l'on creuse des trous, ou bien des tranchées, ou bien l'on défonce tout le terrain, ce qui est évidemment souvent la solution la plus coûteuse et celle qui est écartée. Donc la solution qui est adoptée par les agronomes, pas par les... par les propriétaires des vignes d'Amos, c'est une solution intermédiaire qui est la plus répandue. Il faut dire que, nous le verrons, en particulier dans le cas d'Amos, les terres en question sont très difficiles à travailler, donc établir des tranchées, c'est déjà un gros travail. Par ailleurs, il est question d'espacement, c'est ce qu'a bien montré François Salvia avec les restitutions que je vous ai montrées à l'instant, et pas de drainage comme on le croyait jusqu'en 1993. Donc, grâce à ce travail d'établissement du texte, nous avons une base sûre et d'ailleurs confirmée par les découvertes récentes pour commencer l'étude de ce terroir. Alors, dans cette étude de cas, je souhaiterais en particulier revenir sur plusieurs points. La description des systèmes de conduite de la vigne, en particulier la géométrie des plantations, le mode d'entretien du sol, la question des cultures intercalaires, qui à mon avis est un point crucial dans cette analyse, et enfin la stratification des systèmes de conduite selon les terroirs. Vous avez vu à l'instant dans la clause que je vous ai proposé de lire une distinction de deux types de terroirs, hein, le terrain rocheux, trakeiaga en grec, en dorien plus précisément, et la leiaga, la plaine. Donc, pour simplifier, la terre rocheuse et la terre fertile, la terre de plaine. Alors, les terroirs, hein, je rappelle, petite définition, terroirs que l'on entend comme des entités spatiales homogènes, tant du point de vue de leur sol et du paysage, que dans les choix culturaux et la qualité de la vendange. Alors, François Salvia, interprétant le passage qu'il a correctement restitué, a montré que les Baudamos donnaient des indications précises concernant les espacements de pieds et les tranchées pour enfouir les chapons. Alors, les chapons, ce sont les jeunes pieds de vigne qui n'ont pas encore donné de raisin. Je ressuscite un peu cette expression qui est tombée dans l'oubli à cause du phylloxéra. On n'utilise plus de chapons tout simplement parce qu'on utilise maintenant des pieds greffés sur pieds américains. On ne peut pas, à proprement parler, appeler un pied greffé sur plan américain un chapon. En tout cas, le terme a presque disparu, mais il s'agit bien là de jeunes pieds de vigne. Donc, grâce à ce schéma, je vous montre comment s'organisent les prescriptions du bail d'Amos que nous avons lu ensemble. Donc, on part du principe que ces baux indiquent une géométrie composée d'écartements réguliers, à la manière de nos vignes actuelles, et les traces de plantation confirment que c'était bien le cas et l'usage des Grecs et d'ailleurs aussi des Latins. Donc, en plaine, 1000 ceps de vignes occupaient 2330 mètres carrés, c'est-à-dire que ces ceps de vignes étaient plantés avec une densité de plantation de 4115 pieds par hectare, ce qui est à peu près les densités moyennes dans un vignoble comme le Bordelais. Dans nos régions, les densités moyennes sont plus élevées, hein, autour de 6000, 7000 pieds. Et en terrain rocheux, la densité de plantation est un peu plus élevée puisque 1000 ceps de vigne occupent 1440 mètres carrés, soit 7000 ceps par hectare. 7000 ceps par hectare, c'est la densité de plantation que vous avez à Pouilly, à Sancerre et dans les vignobles plus généralement de Touraine. Notez que c'est un chiffre minimal puisque les Grecs, à la différence des vignerons actuels, pratiquaient le provignage, ce qui avait pour conséquence de multiplier les ceps de vigne sur les terrains. Mais ça, c'est une question que j'aurai l'occasion d'aborder plus tard. Alors, François Salvia a constaté assez rapidement que les densités de plantation préconisées étaient à peu près les mêmes que celles qui étaient pratiquées dans certaines régions bien connues, et notamment la région de Pompéi, puisque les fouilleurs de Pompéi ont découvert des vignes ensevelies par les cendres du Vésuve. On a donc pu retrouver des vignes fossilisées, hein, prises dans les cendres, et notamment identifié les densités de plantation. Donc François Salvia a rapproché les densités de plantation pratiquées à Amos des densités de plantation pratiquées à Pompéi, et il a tiré la conclusion de cette comparaison que les vignerons grecs et les vignerons romains pratiquaient à peu près la même viticulture, et selon lui, ce rapprochement permet de montrer la pérennité, l'extension méditerranéenne d'un même système de culture. Alors ça, c'est un point qui pose problème, et on va voir que tout n'est pas si simple. L'idée que les vignerons grecs et les vignerons latins auraient pratiqué la même viticulture, c'est une conclusion un peu trop rapide qui doit être corrigée. Pour avancer un peu sur ce point, quelques photos des fouilles. Alors, ce sont des fouilles assez récentes, hein, puisque les fouilleurs qui se sont intéressés à Pompéi ont d'abord commencé à gratter les endroits où l'on pouvait trouver du matériel, hein, et d'abord du matériel qui pouvait être vendu sur le marché de l'art à l'époque moderne. Et on s'est intéressé aux vignes de Pompéi qu'assez tard, hein, dans les années 60, et les publications et les photos que je vous montre là, ce sont des photos qui datent de fouilles menées après la Seconde Guerre mondiale. Les pierres posées au sol identifient l'ancien emplacement de pieds de vigne. Et vous avez là, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, une carte d'une vigne en particulier, vous voyez que les espacements sont réguliers. Et quand on regarde les quelques traces de plantation retrouvées en Grèce, on constate la même chose. Très récemment, d'ailleurs, on a retrouvé une vigne romaine en Bourgogne, dans une région réputée. Et ça a évidemment flatté l'orgueil des Bourguignons qui ont vu là une preuve que ces terroirs avaient été, dès l'Antiquité, considérés comme bénis des dieux. Ce qui est, à mon avis, pas tout à fait juste, parce que les traces de plantation en plaine n'identifient pas nécessairement les meilleurs emplacements. Et d'ailleurs, la vigne retrouvée se situe à quelques distances de l'actuelle AOC. Donc, c'est bien un signe que finalement, il ne faut pas aller trop vite en besogne quand on découvre des traces de plantation. Alors, je voudrais comparer rapidement les intervalles mentionnés dans les Bodamos avec ce que l'on sait des pratiques agronomiques des anciens. Et vous voyez que les densités ne sont pas véritablement les mêmes. Et c'est peut-être encore plus net si l'on interprète ces données dans un tableau. Alors là, le tableau, il est assez peu lisible, donc un petit dessin pour finalement mieux comprendre les enjeux du problème. Vous voyez que les densités pratiquées par les Grecs sont globalement plus élevées, et en particulier ces densités de plantation sont très différentes selon que l'on se trouve en terre fertile, en plaine et en terrain rocheux. Les Grecs choisissent là à Amos une densité de plantation assez élevée en terrain rocheux, une densité de plantation plus faible en plaine. Alors je me garderai pour le moment d'interpréter ces différences. Je constate qu'il y a là une appréciation assez différente. Alors, quelques mots des agronomes latins. Hein. J'ai cité Columelle, on aurait pu citer Palladius, mais on peut aussi citer les textes de Varron, de Caton. J'ai pris aussi les exemples de Pline ou de Virgile. Les agronomes latins ont composé leur traité agronomique dans le but de conseiller des investisseurs qui souhaitaient s'assurer rapidement de confortables rendements. Et j'insiste sur ce point, on ne peut prendre les agronomes latins comme... on ne peut pas les considérer comme témoins d'une pratique régulière d'une agriculture. C'est vraiment un cas particulier. Et quand on parle de rendement qui autorise des revenus assez conséquents, on n'est pas dans le cadre de vins de qualité. Du moins, on est dans quelque chose d'assez différent. Quand on met en valeur des terroirs qui sont vierges, que l'on cherche à faire des rendements élevés pour fournir, par exemple, une ville consommatrice comme Rome, on n'est pas dans le cas du Thasos, du Chios et même du Sécube ou du Falerne romain. Donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes les conseils des agronomes latins. Donc si l'on considère les recommandations en particulier les recommandations concernant les densités de plantation, on peut dire dans le cas des agronomes latins que ces recommandations sont en phase avec les connaissances contemporaines sur la physiologie de la vigne, hein, c'est-à-dire tout simplement que l'on peut planter à plus forte densité de la vigne dans des terres plus fertiles. Et dans une vigne à plus forte densité, il y a une meilleure colonisation du sol, une meilleure exploitation de la réserve utile, mais les rendements sont moins importants, les grappes sont plus petites, hein, les grains plus, les baies plus petites également, et plus concentrées, on est là dans une autre pratique. Donc gardons l'idée qu'une densité de plantation élevée induit une concurrence entre les cèpes, notamment au niveau de leur alimentation en eau, concurrence qui incite la vigne à développer son réseau racinaire. Et ça, c'est un point très important aussi si l'on considère que le terroir que l'on étudie se situe en mer Égée, dans une région où le stress hydrique est très important. Donc, pour interpréter correctement ces densités de plantation, il faut prendre en charge, il faut prendre en considération les caractéristiques des sols, ces sols rocheux et les sols dits de plaine, leurs aménagements, les modes d'entretien, ainsi que les modes de conduite et l'effet des cultures associées. Voilà les trois paramètres primordiaux. Mais avant de considérer ces caractéristiques, les aménagements, les modes d'entretien, les modes de conduite, il faut résoudre ce problème, hein, déterminer l'emplacement exact et la répartition géographique vraisemblable des vignobles antiques d'Amos. Cette tâche, elle paraît ardue. On a heureusement un cas d'étude assez particulier qui nous permet d'avancer des hypothèses crédibles et très précises. Je vais donc m'attaquer à cette question de l'emplacement et de la répartition géographique des vignes d'Amos. Alors je reviens dans ma petite région d'Amos. C'est une région très montagneuse. Vous avez là sous les yeux la presqu'île, la péninsule de Bosbourun. La région est très montagneuse et ce relief est en quelque sorte à l'image de l'histoire de la région qui est très mouvementée, hein, d'un point de vue géologique. Je vais vous donner quelques détails dans un instant. L'ancienne localité d'Amos, c'est la localité actuelle d'Issarbournou. Petite localité turque habitée par quelques dizaines d'habitants. Hein. C'est une région assez désertée, hein. On le comprend aisément. Si vous regardez les quelques routes, alors je remercie Google Maps, hein, de m'avoir donné le matériel qui permet de vous montrer assez précisément la région. Vous verrez que je l'utilise encore plus précisément. Donc la région a des routes assez peu praticables et c'est une région qui est aujourd'hui assez peu peuplée. Mais dans l'Antiquité, on constate que cette région est assez densément peuplée avec plusieurs localités qui ont été bien identifiées, souvent assez tardivement, puisque les sites sont rarement facilement accessibles. Mais voilà, la densité actuelle de population ne doit pas être considérée comme statique, hein, sur 20 siècles. L'image satellite nous permet de resserrer l'espace autour d'Amos. La péninsule que vous voyez là, c'est la petite péninsule d'Amos, hein, la petite presqu'île d'Amos. C'est un site d'acropole, entouré encore aujourd'hui par un circuit de fortifications. On a retrouvé un certain nombre de tours qui datent de la fin de l'époque classique ou de début de l'époque hellénistique, un réseau de murailles, un petit théâtre. Également, l'emplacement du site antique d'Amos et du théâtre n'est pas du tout indiqué, hein, dans les guides touristiques. C'est pas du tout un enjeu de tourisme. Hein. D'ailleurs, les Turcs ont tellement de sites à mettre en valeur qu'ils ne se soucient pas de mettre en valeur aussi ces petits sites. Donc si vous recherchez l'emplacement exact, munissez-vous de bonnes cartes. Mais le petit théâtre d'Amos est fort sympathique et vous avez en arrière-plan la magnifique baie de Marmaris, qui est une baie très pratiquée par les touristes. Hein. Vous avez là beaucoup de bateaux de plaisance. Hein, Voilà l'acropole d'Amos. Qui domine une toute petite plaine dont nous aurons l'occasion de reparler. Et la plaine, chose intéressante également, est aujourd'hui n'est pas aujourd'hui cultivée. Ce qui est le cas manifestement depuis la fin des années 60, hein, quand les Turcs ont compris que la région était finalement plus intéressante pour le tourisme que pour la culture. C'est une région assez aride. J'y reviendrai. Voilà le circuit de fortification repéré par Andrew McNichol dans les années 70. Hein. L'ouvrage n'a été publié qu'en 1997. C'est un ouvrage posthume, mais c'est un ouvrage de référence pour les fortifications hellénistiques. Et donc vous avez là un petit circuit de fortification, hein, typique de toute petite localité, avec cinq tours qui défendent le site au nord-ouest. Si l'on revient en arrière, vous voyez que de ce côté-là, du côté sud, sud-est, le site était suffisamment dissuasif pour... On retrouve quelques traces de fortifications au pied de l'acropole, mais c'est finalement assez anecdotique. Notez en particulier pour les professeurs de l'Assemblée, un village de vacances au nord de... Je me permets de vous montrer ce site parce qu'il est réservé aux professeurs de l'université. Si vous voyez la rue qui traverse le village de vacances, vous verrez que la rue, c'est la rue des professeurs. Il y a, paraît-il, un excellent restaurant, mais l'accès est réservé aux professeurs de l'université d'Izmir, d'Ankara et d'Antalya. Alors, je suis désolé pour... Il faut des passe-droits ou être invité par des collègues. Mais je vous donne quand même le tuyau.
Faire un colloque, donc ça y est, tu as donné l'argument décisif.
Et voilà. Et si vous rendez jusqu'au village de vacances, vous poursuivez quelques mètres et vous vous trouvez à proximité immédiate de l'acropole d'Amos. Si vous voulez aller au théâtre et faire le tour des fortifications, il y a là moins d'une centaine de mètres entre la route et le théâtre. C'est assez compliqué d'y accéder, mais finalement, si vous avez de bonnes chaussures qui vous permettent d'éviter les morsures de serpents, c'est assez facile. Voilà le village de vacances, qui finalement, on s'y retrouve assez facilement. Le village de vacances, qui, je vous l'accorde, n'est pas magnifique. C'est un village de vacances turc. Comme il en a été construit tant ces dernières années. Heureusement, dans la région, il y a beaucoup de sites protégés, notamment pour la reproduction des tortues. Donc, c'est une région très agréable quand même. Donc, quelques mots d'Amos comme localité politique. Cette communauté politique apparaît au cours du 5e siècle dans les listes du Tribuatique. C'est une cité dépendante d'Athènes. Elle verse tribut à la Ligue de Délos. Et à la fin du 5e siècle, cette localité est absorbée par la grande ville de Rhodes. Au moment de l'éclipse, finalement, de l'impérialisme athénien, la cité passe d'une souveraineté à une autre, d'un impérialisme à un autre, et la petite communauté d'Amos intègre définitivement l'ensemble rhodien à la fin du 5e ou au tout début du 4e siècle. Disons, retenez que, à l'époque qui nous intéresse, à l'époque de la gravure des Beaux, Amos est une localité dépendante de Rhodes. Ce qui a d'ailleurs suscité bien des commentaires sur les Beaux eux-mêmes et leur interprétation économique, j'y reviendrai. Alors, les terres d'Amos, les terres du sanctuaire, sont louées pour 50 ans, c'est une durée très importante, à des particuliers qui manifestement appartenaient à la communauté politique rhodienne. Alors, c'est un point sur lequel il faudra revenir, la mise en valeur des domaines sacrés d'Apollon Samnaios. Le temple d'Apollon se situe au sommet de l'acropole. Je vous montrerai quelques photos des rares vestiges que l'on peut encore identifier. Donc la mise en valeur de ces domaines a été mise en rapport avec le développement de l'économie rhodienne au IIIe siècle et en particulier le développement des exportations de vin rhodien. Et ça, c'est un point qui devra être réexaminé. Alors les historiens qui se sont penchés sur ces Beaux d'Amos ont proposé des identifications, ont proposé de localiser ces vignes. Je ne suis pas, nous ne sommes pas avec Emmanuel Vaudour les premiers à poser cette question. Et trois hypothèses ont été avancées. Alors, il est bon de replacer ces différentes hypothèses dans un contexte un peu plus grand. Donc vous avez là une carte en trois dimensions de la petite région d'Amos. L'occupation du sol actuel ne nous donne pas beaucoup d'informations, sinon que la région est presque complètement déserte et cette région essentiellement montagneuse est couverte de conifères. entre si l'on enlève les 30% de mer, 70% des terres que vous avez là sous les yeux sont occupées par des forêts de conifères. Et si l'on fait l'addition de la végétation et des rochers, on passe à un chiffre encore plus élevé. La carte des pentes nous confirme, si besoin est, que la région est très montagneuse. Les plaines ne représentent que 3,5% du territoire. Et fort logiquement, les hypothèses qui ont été émises prennent en considération ce paramètre. Alors, trois hypothèses ont été avancées. L'une place les vignobles d'Amos autour du village actuel de Golenia, au nord d'Amos. Une deuxième hypothèse, donc la première hypothèse, a été avancée par Georges Bin, l'auteur de l'ouvrage sur la Périrhodienne de 1954. Ellen Rice, récemment, en 1997, a proposé de localiser ses vignes dans l'arrière-pays de Tourounche. Vous avez vu la petite plaine de Tourounche. Dans cette région-là. Et enfin, Andrew McNichol, qui a étudié les fortifications d'Amos, a proposé de localiser les vignes dans la petite vallée côtière qui s'ouvre au sud d'Issar-Bournou, au sud du promontoire d'Amos. Voilà les trois localisations possibles sur une image satellite. Et enfin, les trois localisations possibles dans la petite carte en trois dimensions que je vous proposais à l'instant, qui a été établie par Emmanuel Vaudour grâce à des images Landsat. Celle-ci n'était pas payante, mais pour avoir pour préciser nos analyses, nous avons dû, et là c'est l'AgroParisTech qui a financé, demander des clichés plus précis pour pouvoir confirmer nos intuitions. Donc là, c'est vraiment une partie encore plus technique, hein, que je ne développerai pas, mais qui est fait l'objet d'une autre communication apparaître dans les actes du colloque sur la viticulture grecque qui a eu lieu ici en 2010 et apparaître dans Food and History. Donc, ces hypothèses de localisation ne prennent en considération qu'un paramètre. Il faut des plaines et des rochers et des terres rocheuses pour retrouver les terres d'Amos. Mais pour identifier les vignes d'Amos, la présence de plaines ne suffit pas. Il faut considérer les sols de la région. Et on est dans une région très particulière. Beaucoup de sols sont issus de l'altération de roches à serpentine et péridotite, c'est-à-dire des sols qui sont parfaitement impropres à l'agriculture. Pour vous donner une petite idée, ce sont des sols qui ressemblent beaucoup aux sols que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie, hein, des terres rouges, des terres très particulières. Leur présence, la présence de ces sols est liée à l'histoire mouvementée de la Méditerranée orientale, l'histoire tectonique, hein, je vais vous donner quelques précisions et quelques clichés vous permettront de bien comprendre les particularités des péninsules de Knid et de Bousbourun que nous considérons. Alors là, une carte géologique proposée par les Turcs, une carte récente, très bien établie, très précise, qui nous donne finalement les indications les plus précieuses. Vous avez là une carte plus schématique qui met en valeur les différentes plaques tectoniques qui se superposent à cet endroit comme des couches de millefeuilles. Hein. On est vraiment dans une région très, très accidentée. En particulier, hein, ces nappes tectoniques que l'on appelle les couches lyciennes, hein, puisqu'on est dans cette région à la frontière de la Carie et la Lycie. L'historien de l'Antiquité serait amené à faire quelques critiques sur l'appellation proposée par les géologues turcs, mais disons que j'aurais préféré moi nappe carienne, mais c'est pas finalement très important. Mais vous avez là vraiment une région. Chaque séparation, c'est une faille avec beaucoup de séismes. Vous avez là toutes les failles de la région. Donc la petite région d'Amos se situe à cet endroit. Et vous avez là toutes les failles sous-marines et continentales, avec une faille plus grande. Hein, la petite région d'Amos se situe vraiment dans une région de frottement. Et vous avez là sur cette carte l'ensemble des séismes assez importants répertoriés entre 2000 et 2006. Donc vous voyez une très forte concentration de séismes. C'est une région qui continue à bouger et cela ne va pas sans poser des problèmes aussi d'interprétation, puisqu'il faut être sûr quand on parle d'un sol que le sol que l'on étudie existait déjà il y a 2000 ans, ce qui n'est pas toujours facile à prouver. Et là encore, sans Emmanuel Vaudour et sans l'aide des géologues, ce travail n'est pas du tout accessible à l'historien. Mais en tout cas, cette carte est assez éloquente. Hein. Elle montre que l'on est dans une région très, très sismique. Donc la région est marquée par une importante activité volcanique. Et cette activité volcanique, elle n'est pas récente, puisqu'on trouve les premières traces d'une importante activité volcanique à l'ère tertiaire, à l'époque des dinosaures, si vous voulez, au moment de la séparation des continents, au moment de la formation de cet océan, l'océan Atlantique, qui sépare les Amériques de l'Europe et de l'Asie. Alors, la faille hein, l'activité volcanique continue depuis l'ère tertiaire, c'est celle qui s'ouvre au moment de la formation de cet océan qui sépare la Pangée en deux, hein, l'Europe, l'Asie d'un côté, l'Amérique, l'Afrique, l'Australie de l'autre. Et pour mémoire, l'emplacement à l'époque des dinosaures et l'ouverture des continents, l'emplacement de Tours et d'Amos. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. La carte a été établie par un collègue américain. Donc, considérons chaque hypothèse séparément. Donc la première hypothèse situe les terres sacrées d'Apollon Samnaios autour du village de Gélénia. Alors cette hypothèse a été privilégiée par Georges Bine car elle s'accordait avec sa propre interprétation des Baux d'Amos, qui ne voyait pas des espacements dans les mesures qui étaient précisées dans les Baux, mais des indications de drainage. Or, l'interprétation de Salvia a montré qu'il n'y avait pas de drainage, et donc la localisation favorisée par Bine s'accordait avec son interprétation erronée d'une pratique de tranchées liée à l'irrigation et au drainage des vignes d'Amos. En fait, un autre facteur plus déterminant encore peut être mis en avant, et c'est particulièrement visible sur cette carte, la présence de mines de chrome dans la région, donc qui disqualifie ce terroir pour la culture de la vigne. Donc au nord, donc dans le secteur de Gélénia et plus au nord, on est là dans une région avec des sols acides. Vous avez là l'occupation actuelle, le village de Gélénia, et plus généralement ces sols avec une forte présence de serpentines péridotites dans toute la Turquie. On voit là que c'est particulièrement présent dans la région d'Amos. Donc des sols acides, riches en métaux lourds, avec des risques élevés de toxicité métallique pour la vigne. Alors, je vous renvoie à quelques publications sur l'intolérance ou la tolérance de certaines cultures au nickel, au chrome, etc., aux plantes capables d'hyperaccumulation. La vigne ne fait pas partie de ces plantes. On pourrait voir aussi les effets du nickel, du chrome sur la mycorhisation. Hein. C'est un facteur très important pour le développement des racines et donc le développement de fruits. Donc, cette présence de métaux lourds disqualifie ce terroir pour la vigne. La deuxième hypothèse, donc dans l'arrière-pays de Tourounch, c'est une hypothèse plus intéressante puisque l'on trouve des endosols issus de basalte, hein, je ne détaille pas, et plus au sud, des sols issus de calcaire du Jurassique Crétacé, qui sont sols qui sont l'un et l'autre parfaitement compatibles avec la culture de la vigne. Le problème, c'est que la carte des pentes montre qu'il n'y a pas de plaine à cet endroit et par ailleurs pas de possibilité d'avoir à la fois et à proximité des vignes en plaine et des vignes sur terrain rocheux. Or, les bons d'Amos montrent bien que ces deux terroirs doivent être associés. Donc cette hypothèse peut être abandonnée. On a d'autres arguments pour invalider cette hypothèse. Je les passe sous silence. Voilà, donc la carte des pentes en question. La dernière hypothèse place l'emplacement du vignoble d'Amos dans la petite plaine au sud d'Issar-Bournou. C'est la petite plaine de Cumlubuc. Et c'est l'hypothèse qui doit être privilégiée. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la plaine de Cumlubuc, qui serait la Leyaga des Baux d'Amos, est couverte d'alluvions récentes, qui repose sur des calcaires du Crétacé, avec présence de silice, donc des sols profonds, riches en éléments nutritifs, qui permettent le développement de vignes, et même avec beaucoup de vigueur, vigueur qu'il s'agissait de maîtriser. Ça, je reviendrai dans un deuxième point sur cette question. Je passe sur d'autres arguments. Notons quand même... Bon, voilà la plaine de Cumlubuc, hein, marquée aujourd'hui par le tourisme. C'est une région qui n'est active que 2 mois dans l'année. Hein. Malheureusement, c'est une région complètement morte. Vous avez quelques hôtels qui attendent le début du mois de juillet pour avoir quelques touristes qui viennent là la journée, pour la plupart, pour se baigner dans les eaux de la baie de Marmaris. Mais c'est une région presque déserte de culture. Et vous comprenez, en voyant ce cliché, que la région attire beaucoup de touristes. Hein, c'est une région très belle. Donc, je passe sur certaines considérations plus techniques. Notez donc que la côte d'Amos est aussi balayée par des vents du nord, les Meltem. Alors, ces vents sont très intéressants parce qu'ils sont susceptibles de modérer les températures estivales. Ces vents permettent la maturation lente du raisin et donc des vendanges assez tardives. Or, les Grecs vendangeaient des raisins à maturité, voire en surmaturité, pour faire des vins moelleux. Et la difficulté de ce type de vinification, c'est l'acidité. Or, les vents et les brumes nocturnes permettent d'atténuer le stress hydrique et une bonne maturation du raisin avec le maintien d'une bonne acidité. C'est un point important pour expliquer aussi la nature des vins produits. Et donc, les conditions thermiques favorisent la bonne maturation du raisin, le maintien d'une bonne acidité, donc la possibilité de produire des vins de qualité capables d'être exportés. Vous savez que la grande difficulté à cette époque, jusqu'à l'époque moderne, c'est bien de faire des vins capables de vieillir un tout petit peu et de voyager. Et en l'occurrence, les Grecs avaient établi, mais ça c'est une autre question, des techniques assez avancées pour élever des vins capables de vieillir et de voyager. Alors, petite parenthèse économique. On a interprété ces baux comme le témoignage d'une mise en valeur des terres assez tardive au IIIe siècle, au moment où le vin rhodien s'exporte. En réalité, quand on considère l'emplacement que nous retenons, c'est-à-dire l'emplacement en proximité immédiate de la localité d'Amos, il est inconcevable que les Grecs aient attendu le IIIe siècle pour mettre en valeur ce terroir. Et les Grecs d'Amos n'ont certainement pas attendu que les Rhodiens leur soufflent l'idée pour mettre en valeur ces terroirs et en particulier pour y planter de la vigne. Donc ça, c'est un point important. On ne peut pas imaginer que ces terres aient été mises en valeur seulement au IIIe siècle. Elles ont sans doute été mises en valeur très tôt et l'emplacement est très favorable à la culture de la vigne qui est, on le sait, très importante dans cette région. Donc cette conclusion concernant la localisation des Baudamos permet aussi de remettre en question certaines idées macroéconomiques. Bon, par ailleurs, vous savez que dans l'Antiquité, l'idée d'une politique économique concertée, c'est une question qui a certes fait couler beaucoup d'encre, mais qui est quand même assez contestable. On est là dans des communautés qui recherchent avant tout l'autarcie et la survie économique et pas le marché chinois. Je passe encore sur certains points pour évoquer une autre question importante des Baudamos, la question du complantage et la question des cultures intercalaires. Ces cultures intercalaires sont explicites dans les Baudamos avec la mention de spora, de sporaï, de bandes cultivées et par ailleurs la mention de figuier. Alors ces systèmes complantés sont aujourd'hui assez méconnus. Par provocation, je vous montre la photographie d'un vignoble de Madagascar. On est bien loin d'Amos et bien loin de l'Europe. Mais ces systèmes ont presque complètement disparu. On en retrouve encore quelques traces dans le vignoble du Douro, avec quelques associations vignes, arbres et cultures, avec aussi présence d'élevage. On a encore quelques traces d'associations de cultures dans les côtes du Rhône, hein, avec les chênes truffiers par exemple, c'est assez rare. Et par ailleurs, ces systèmes complantés, dans le cas de la vigne, sont assez peu étudiés. Un contre-exemple, les vignes du Languedoc, où l'on voit l'association de vignes et de fétuques, hein, qui est une graminée, une plante fourragère. Bon, mais malheureusement, ces systèmes complantés sont trop peu étudiés. Alors, les effets du complantage sont assez complexes, tantôt complémentaires, tantôt antagonistes, avec des effets sur le bilan hydrique. Évidemment, quand vous plantez des cultures entre des pieds de vigne, ces cultures concurrencent la vigne dans ses ressources en eau, donc ça joue sur le bilan hydrique. Ça joue aussi sur le cycle de l'azote. Les cultures intercalaires pompent de l'azote dans le sol, elles le restituent à un moment donné, mais à quel moment, c'est toute la question, par exemple, des plantes fourragères, hein, que l'on cultive ou bien pour l'élevage ou bien pour amender la terre. Donc tout peut être interprété dans le sens d'une complémentarité ou bien au contraire dans le sens de l'antagonisme, avec cette question aussi, et ça j'insiste sur ce point, mais je pense que vous en êtes tous parfaitement convaincus, pour faire des vins de qualité, il faut un facteur limitant, il faut faire peiner la vigne, et donc les cultures intercalaires interviennent de manière très efficace. Et d'une manière générale, hein, je dirais que la vigne comme monoculture, j'aurais presque tendance à penser que c'est une hérésie, et en tout cas c'est une anomalie contemporaine. Ça n'existait presque pas, même si les agronomes latins avaient bien tendance à considérer qu'il valait mieux ne pas associer les cultures. Pourquoi ? Parce qu'il fallait des rendements élevés pour approvisionner Rome en vin et en grande quantité. Mais bon, laissons de côté les agronomes latins. La plupart des vignobles sont jusqu'à au début du XXe siècle sont complantés. Hein. On a vu des travaux récents, même à Bourgueil, dans des régions toutes proches, où on voit la vigne associée au fenugrec, grec, à la coriandre, à la mélisse, au réglisse. Enfin, il y a beaucoup de choses. Les effets évidents aussi sur la fixation de carbone, sur la effet très intéressant sur la préservation de la biodiversité. Effectivement, quand vous maintenez des cultures intercalaires, vous contribuez à la vie des sols et donc à la biodiversité, à la vie de la microflore, de la microfaune, ce qui n'est pas sans incidence sur le développement de levures qui ensuite favorisent les vinifications. Donc de cet équilibre plutôt en faveur de la complémentarité dépendait la productivité, la rentabilité de ces systèmes. Et évidemment, les stratégies ne sont pas les mêmes selon que l'on veut faire un vin de qualité ou alors que l'on veut développer des ressources économique annexe. Hein. C'est Marie-Claire Amouretti, hein, pour l'histoire ancienne, qui a bien mis en lumière ces cultures méconnues. Hein. On parle beaucoup de la trilogie vigne, olivier, blé, mais ces cultures plus discrètes sont très importantes. Elles viennent compléter les revenus autarciques des exploitations et elles permettaient par ricochet de vendre des surplus alimentaires qui n'étaient pas négligeables. Et je dirais en particulier dans les communautés grecques avec cet idéal autarcique. Je ne reviens pas sur les questions plus écologiques, hein, avec les interactions entre les racines de la vigne et les racines des cultures intercalaires. C'est quelque chose que l'on pourrait développer, si vous voulez, dans les questions, mais c'est un point à prendre aussi en considération. La compétition racinaire permet une meilleure colonisation du sol, un développement du système racinaire, ce qui permet aussi, et particulièrement dans une région chaude comme Amos, à la vigne de supporter des étés très chauds. Si la vigne a été concurrencée, elle a été chercher très loin sa nourriture, s'il survient un été très chaud, des périodes de stress hydrique intense, la vigne est capable de supporter ces épisodes de stress hydrique. Regardez par exemple l'épisode de la sécheresse de 2003. Toutes les vignes qui ont peiné, ce sont en particulier les vignes qui sont désherbées, bon, évidemment les jeunes vignes, mais les vignes désherbées, qui trouvent à la surface du sol leur nourriture. Ces vignes-là ont plus souffert de la sécheresse que les vignes qui étaient dans des systèmes enherbés, puisque les systèmes enherbés favorisent la concurrence et donc l'enracinement en profondeur. Donc c'est une comparaison qui n'est pas si inadéquate, hein. Même si on ne peut pas parler dans le cadre de l'enherbement de système complanté. Mais au moins on a là quelque chose qui s'en rapproche. Donc plus généralement on peut dire qu'il y a aussi des interactions entre les systèmes racinaires de la vigne et des cultures intercalaires. Hein. Le phénomène de mycorhisation, vous pouvez entretenir un sol, préserver sa vie en favorisant la mycorhisation, c'est-à-dire le développement de ces micro-organismes aux racines qui rendent à la fois la terre plus fertile et puis la vigne plus pérenne. Enfin, on a constaté que les vignes en système complanté étaient d'une manière générale plus résistantes aux maladies. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, hein, quand il s'agit de mettre en œuvre un plan comme le plan Ecophyto 2020, hein, avec une utilisation très réduite des produits phytosanitaires, il faut s'intéresser à ces systèmes complantés. Et c'est peut-être là que nous, historiens, avons des choses à dire aux agronomes, parce que ces systèmes complantés, je l'ai vu, étaient complètement ignorés des agronomes actuels. Et quand on leur parle du fenu grec planté dans les rangs de vignes, des légumineuses, etc., ce sont des choses qui sont aujourd'hui en essai dans le sud de la France, dans certaines équipes de l'INRA, mais on a là des expérimentations qui sont très en deçà de ce que les Grecs pratiquaient, des systèmes agronomiques beaucoup moins complexes. Je vous ai parlé tout à l'heure à la FETUC, je passe, hein, je passe aux conclusions ne pas manger tout le temps dont nous disposons ce matin, j'ai parlé déjà trop longtemps. Cette petite étude, et plus précisément à la localisation des Bonamos, permet de mieux comprendre finalement ces prescriptions, les clauses des Bonamos et l'originalité des modes grecs de conduite de la vigne. On peut préciser les choses quand on connaît à la fois les prescriptions et le terroir précis exploité, on peut avancer sur ce terrain, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Par ailleurs, cette étude montre que, consciemment, je dirais qu'empiriquement, parce qu'évidemment, les Grecs ignoraient tout des micro-organismes, les Grecs ignoraient tout du stress hydrique, etc. Empiriquement, les Grecs ont développé des systèmes où l'on tient compte de différents paramètres, l'importance des rapports entre la vigne, ses racines, la microflore, la microfaune, les micro-organismes du sol au sein d'un terroir. Et c'est peut-être tous ces paramètres qui définissent un terroir sont pris en compte très précisément par les Grecs, et vous voyez, hein, avec des prescriptions différentes. J'ai pas eu le temps d'expliquer pourquoi les densités de plantation sont plus faibles en plaine qu'en terrain rocheux, mais vous l'avez compris, c'est bien lié à ces systèmes qu'on plantait. On va concurrencer encore plus la vigne en mettant en œuvre des systèmes qu'on plantait qui évidemment prennent plus de place entre les rangs pour éviter justement des rendements trop élevés. Donc les Grecs, à travers ces pratiques agronomiques, ont finalement empiriquement reconnu ce qu'était un terroir. On peut dire que les Grecs, dès l'Antiquité, comprennent l'effet terroir. Et c'est vrai, évidemment, avec le Cadamos, mais si l'on reprend les textes agronomiques, des Géoponiques, Théophraste, tous ces textes qui, jusqu'à présent, sont sous-traités pour des raisons diverses, hein, tout simplement parce que le texte des Géoponiques n'est pas accessible en traduction. Ça peut dissuader certains d'aller voir les textes grecs. Certains textes épigraphiques sont mal établis. Les textes de Théophraste ne sont pas également édités ou l'ont été très récemment et encore en anglais. On a une traduction russe des Géoponiques et une traduction espagnole, mais pour l'instant pas de traduction en français. Nous avons porté, nous ici, enfin, au sein de l'équipe Pléa, un projet pour une traduction des Géoponiques au sein d'un projet plus important, un appel à projet à l'ANR, ce qui n'a pas été retenu, mais les experts ne sont pas toujours conscients de la qualité des projets, c'est comme ça. C'est pas... Bref. Donc, on pourrait aussi parler longuement du travail des sols et des effets du complantage. Travail des sols et complantage qui ont pour effet d'entretenir la richesse et la complexité de ces interactions entre la vigne, ses racines, le sol, le climat, la microfaune, la microflore. Et là encore, je ne vous parle que de viticulture, mais l'entretien de la microflore et de la microfaune a des conséquences directes sur la fabrication du vin, parce qu'il n'y a pas de vin sans levure, sans vie, sans micro-organismes. Et si l'on favorise la vie dans la vigne, on va favoriser la bonne réalisation des vins au chai. C'est très important. Ça, c'est un autre travail, mais complémentaire. Cependant, évidemment, de nombreuses zones d'eau subsistent. Hein. Quant aux modalités pratiques précises du complantage, évidemment, on n'a pas la liste des cultures associées. J'ai fait un travail par ailleurs sur ce point. On peut quand même dresser une typologie assez précise des cultures associées à la vigne, mais dans le cas précis d'Amos, pas de détails. L'extension spatiale précise de ces cultures associées, là encore, ça pose des problèmes. Je n'ai pas évoqué, parce que j'avais fait un papier beaucoup trop long, bêtement, la question du provignage, mais c'est aussi un point important. Et enfin, la question du paysage. J'aurais pu aussi vous parler des échalas, hein, c'est toute une partie de l'étude. Très intéressant d'étudier aussi ce dossier du point de vue de la dynamique des paysages. On peut comprendre les paysages antiques un peu mieux en étudiant ces baux, non pas isolément comme historien, mais avec le concours des agronomes, des géologues, par exemple des écophysiologues, etc. Voilà, donc petite anecdote, hein, quand j'ai eu enfin l'occasion d'aller sur place à Amos, j'avais repéré avant, grâce à Google Maps, une vigne. Je me suis dit, c'est formidable, je vais pouvoir voir comment aujourd'hui encore on cultive le terroir d'Amos. J'avais trouvé d'ailleurs deux photos sur un petit blog d'un photographe de la vigne d'Amos, puisqu'il n'y en a plus qu'une. Et sur place, j'ai eu la surprise de plusieurs surprises en fait. J'ai découvert des vignes complantées, alors qu'aujourd'hui, ces systèmes sont rarissimes. Et vous avez là un système complanté avec deux cépages différents. Alors, ce n'est pas une vigne qui sert à faire du vin, mais qui sert à alimenter les touristes l'été en raisin de table. Malgré tout, regardez, si vous voyez au fond de l'image, hein, vous avez quelques ruines et la ferme du monsieur, la maison du monsieur, occupe sans doute un petit emplacement fortifié au pied de l'acropole d'Amos. Et enfin, j'ai eu la surprise aussi, en prenant les mesures, de voir que la densité de plantation était rigoureusement la même que celle préconisée pour la Leiaga d'Amos, hein, c'est-à-dire une densité de 4000 pieds hectares environ en plaine. Enfin, vous le voyez, il y a également une pratique du provignage, qui est une pratique aussi abandonnée un peu partout. Là, manifestement, le monsieur n'avait pas peur du phylloxéra, puisqu'il pratiquait le provignage, et il est le premier, m'a-t-il dit, depuis bien longtemps, c'est-à-dire sans doute depuis les Grecs, et le départ des Grecs en 1922, à planter la vigne. Donc voilà le vigneron d'Amos que j'ai pu interroger, très sympathique, qui m'a montré aussi un petit système d'irrigation que je passe sous silence. Voilà, et on pourrait développer d'autres exemples, études de cas, mais j'ai déjà trop longtemps parlé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Thibault. Bon, on va introduire une nouvelle. On va applaudir et